Un mari pacifique, chapitre 19. Une démarche. Il fallait télégraphier à Eric le plus tôt possible, tout de suite, pour lui demander un rendez-vous où il devrait s'expliquer. C'était maintenant que commençait la trahison véritable. Daniel ne lui en avait pas voulu de l'autre, puisqu'elle semblait s'excuser par de la passion. Où rencontrer Eric ? À Spa ? Daniel irait à Spa. Mais peut-être n'y était-il déjà plus. Daniel se rendit à la poste et expédia cette dépêche. « Besoin vous parler toute urgence, télégraphier rendez-vous poste restante Saint-André. » Et quand un receveur grisonnant, élégant encore et bouclé, un mélomane qui ne manquait pas au casino une soirée d'opéra comique, quand M. Buy lui-même eut transmis la dépêche, Daniel se sentit soulagé. Il avait fait tout ce qu'il y avait à faire pour le moment. Il ne pouvait avoir de réponse avant le lendemain. D'ici le lendemain, il serait libéré de toute préoccupation d'agir. Il éprouvait ainsi, dans les grandes crises, des alternatives de bien-être et de détresse irrémédiables. En arrivant à la maison, il lui semblait que tout allait s'arranger. Mais la gaieté où il vit Berthe ranima toute son angoisse. Elle était en train d'écrire. Elle écrivait sans doute à Eric et lui racontait sa journée et l'excursion qu'elle avait faite. Le soir, on alla au casino. Monsieur et Madame Henri, l'oncle Émile et la tante Amélie étaient déjà assis sur la terrasse, où ils formaient, comme à l'ordinaire, un groupe hostile. Madame Voreau et Berthe, avant d'entrer dans la salle de spectacle, s'arrêtèrent pour leur dire bonjour en passant. Daniel, par piété filiale, s'asseyait quelques instants auprès d'eux. Ce soir-là, le souci qu'il avait le libérait de ses devoirs. Il embrassa sa mère et s'en alla s'asseoir tout seul sur la plage, tandis que l'oncle et la tante, qui venaient tous les soirs au casino pour profiter de leur abonnement, humaient tant qu'ils pouvaient l'air de la mer et ne pouvaient concevoir que les autres payassent un droit supplémentaire pour aller s'enfermer dans une salle de théâtre. Cependant, grâce à la musique lointaine, au soir calme et surtout au répit forcé qu'amène un souci lancinant, les choses s'arrangeaient encore dans l'esprit de Daniel. On avait exagéré l'aventure d'Éric, évidemment. C'était une histoire sans conséquence, puisqu'il continuait à écrire à Berthe, et que la jeune femme semblait heureuse de ses lettres. On rentra vers minuit. Monsieur Voreau arriverait par le train, mais ça n'était pas sûr. Il avait dit de ne pas aller le chercher. Dans la nuit, Daniel se réveilla. Il regarda Berthe à la lueur de la veilleuse. Elle dormait paisiblement. Daniel s'énervait d'être couché. Éric allait-il recevoir sa dépêche ? Y répondrait-il ? Il se leva, alla jusqu'à la fenêtre, écarta légèrement un rideau pour voir si le jour allait se lever. Berthe s'assit sur son lit en sursaut. « Qu'est-ce que tu fais ? » dit-elle. « Rien, je ne peux pas dormir. »« Idiot qui me réveille !» Elle se recoucha furieuse en se tournant du côté du mur. Daniel eut le cœur gros, comme un enfant grondé injustement. Mais pouvait-il lui en vouloir? Il s'endormit à son tour et ne se réveilla qu'au jour. Il lui sembla que l'on remuait dans la maison. Il craignit un instant de s'être endormi trop longtemps et qu'il ne fût déjà très tard. Il alla à la cheminée. Le balancier dans le socle de la pendule ne bougeait pas. Un Socrate de cuivre était tristement appuyé sur le cadran où se lisait une heure improbable. Daniel passa doucement dans le cabinet de toilette. Il se débarbouilla avec précaution, en évitant le mieux qu'il put les chocs du pot à eau et de la cuvette, qui, malignement, ne font jamais tant de bruit qu'à ces heures matinales dans le silence de la maison. Une fois lavé, Daniel descendit au rez-de-chaussée. Les bonnes, sans doute, étaient encore couchées, il n'était peut-être que 5 heures. Mais il entendit la cuisinière qui réveillait son fourneau paresseux. Daniel, qui ne voyait pas encore bien clair dans les soucis de la journée, s'assit sur une chaise de la salle à manger, tout à la tristesse de s'être levé trop tôt. Il poussa un bâillement pénible, ouvrit la persienne de fer d'une porte et sortit dans le jardin. Les arbres vibraient entre eux d'un bruit agaçant. La fraîcheur du matin n'avait rien d'avenant ni d'agréable. Il pensa à aller au télégraphe, mais le bureau n'était pas ouvert. Le temps lui paraissait interminable. Pour s'occuper, il se mit à ouvrir toutes les persiennes, qu'il replia méthodiquement. Il y avait dans le salon une petite bibliothèque appartenant au propriétaire et que personne ne regardait jamais. Il y prit un volume au hasard, « Les fleurs animées » de Granville, et se hâta de le changer contre un des tomes de « Mathilde » qu'il ouvrit au milieu. Il entra en intrus dans les aventures de toutes sortes de gens qu'il ne connaissait pas et s'y intéressa assez pour lire une dizaine de pages, au bout desquelles il pensa avoir lu très longtemps. Il ne voulait pas aller voir l'heure à la cuisine. La cuisinière lui dirait « Monsieur est matinal ». Et il avait horreur de ces remarques prévues. Même quand il l'entendit venir du côté du salon, il sortit de nouveau dans le jardin, pour la fuir. À ce moment, l'horloge de l'église sonna le quart. Elle savait probablement de quelle heure, mais elle ne le disait pas. C'était sans doute 7h15. Il pouvait toujours aller voir à la poste, qui ouvrait à 7h. Dehors, sur la route, il n'y avait personne qu'un vieux paysan, lent, qui semblait marcher depuis toujours. Une sonnette tintait le long d'une rue voisine, sonnette d'un laitier ou d'un marchand de journaux, un de ces appels des rues que les intéressés seuls entendent. Au bureau de poste, dont les volets n'étaient pas encore enlevés, les deux demoiselles et les deux facteurs étaient en train de trier le courrier. Daniel passa devant la porte sans oser encore entrer. C'est gênant de venir demander une correspondance à la poste restante. On a l'air d'un homme vicieux, surtout quand on sait que vous êtes marié. Jadis, avant son mariage, il avait écrit à une petite ouvrière qui devait lui répondre, poste restante. Il avait demandé au guichet s'il n'y avait rien à certaines initiales. Il n'y avait rien. Et il lui en était resté une confusion inoubliable. En admettant que sa dépêche à lui fût arrivée à Spa la veille au soir, il n'était pas sûr qu'elle eût rencontré Eric à l'hôtel, et si même il y avait répondu le soir, elle ne serait peut-être transmise au bureau de Saint-André qu'assez avant dans la matinée. Il fallait qu'elle passât par Paris. Il attendrait jusqu'à 8h avant de rien demander. Il alla s'asseoir en face de la poste dans un petit café qu'un garçon était en train de balayer. Cela sentait le tabac de la veille. Il y avait sur le sol des bouts de cigarettes et de la sciure de bois. Des torchons traînaient, des tables de marbre étaient retournées sur d'autres tables. Daniel avait demandé un café noir. Le patron, pour ne pas déranger l'ouvrage de son garçon, apporta lui-même un verre et, sur un plateau minuscule, trois morceaux de sucre dont l'un se trouvait ébréché. Ce qui manquait avait dû être détaché la veille par le pouce nerveux d'un consommateur afin d'offrir un canard à quelque enfant sage ou de récompenser la gracieuse agilité d'un chien. Cependant, le patron avait déposé sur la table quelques journaux amusants, d'un geste un peu brutal et avec un air de penser à autre chose qui diminuait le prix de cette attention. Mais Daniel avait pris l'indicateur et étudié les correspondances de Spa. Il se noyait dans les complications des services internationaux, des heures qu'on lit de bas en haut, des annotations, des indications de rapides qui descendent des voyageurs sans en prendre, quand il s'aperçut qu'il était 8h20 et qu'il pouvait peut-être risquer une démarche à la poste. Il eut beaucoup d'émotion quand on lui remit entre les mains, sans être plié, une dépêche qui arrivait à l'instant. « Serai à Paris demain 4h, me verrai toute la soirée, hôtel Brown, rue Vignon, amitié. » Eric ne se dérobait pas, c'était déjà cela. Il descendait à l'hôtel et non chez lui, ce qui semblait un mauvais signe. Il était avec quelqu'un. La dépêche était datée de la veille. Demain, c'était donc aujourd'hui. Il fallait partir à Paris par le train de midi. Mais Daniel se dit tout à coup qu'il avait sur lui à peine quelques francs. Il souffrit très vivement de ce manque d'argent qui grève si douloureusement tous nos ennuis. Il ne pouvait en demander à ses parents, ce seraient des questions à n'en plus finir. Il pensa à M. Voreau. Il ne lui avait jamais rien demandé, mais il fallait surmonter ses répugnances. Il avait besoin d'au moins 5 louis. Pendant qu'il y était, il en demanderait 10 pour ne pas être pris de court. Il rentra à la maison très vite, afin de ne pas réfléchir à ce qu'il allait faire. Il trouva M. Voreau en caleçon, dans son cabinet de toilette, sa belle tête grise tourmentée par l'amer rictus de l'homme qui se savonne la barbe. « J'aurai besoin d'aller à Paris aujourd'hui même, » dit Daniel. « Je dois voir un professeur qui me sera très utile pour mes examens et qui s'en va ce soir pour longtemps. Je suis un peu à court. » Des imprévus. Seriez-vous assez... Auriez-vous l'amabilité de me prêter 200 francs ? Monsieur Voreau, sans rien dire, tendit sa main mouillée vers son veston et indiqua le coin de son portefeuille qui sortait de la poche intérieure. Daniel prit le portefeuille. « Attendez, » dit le banquier en s'essuyant les doigts. Puis il prit lui-même, entre quelques billets pliés, 2 billets qu'il tendit à Daniel. Daniel, troublé, dit « Je vous remercie ». Monsieur Voreau inclina la tête, Daniel se hâta de sortir. L'argent arrivait toujours ainsi, dans les moments où l'on était trop ennuyé pour en jouir. Pourtant, Daniel en éprouva quelque soulagement. Un autre souci immédiat lui restait. Monsieur Voreau, qui n'était pas très occupé des faits et gestes de son gendre, n'avait manifesté aucun étonnement de le voir s'en aller tout à coup à Paris, un dimanche. Berthe non plus ne s'en inquiétait pas, ce n'était pas dans son tempérament. Mais monsieur et madame Henri n'allaient rien y comprendre. Tant pis. En un jour comme celui-là, Daniel s'affranchissait de cette sollicitude indiscrète dont nos parents entravent notre liberté. Il s'arrangerait pour présenter ce voyage à Paris comme un caprice un peu frivole, dont sa mère s'irriterait un peu, sans doute, mais mieux valait l'irriter que l'inquiéter. Daniel espérait être seul dans ce train, qui, ce dimanche d'août, revenait sur Paris. Mais il y a assez de monde au monde pour que plusieurs personnes aient le même jour une idée anormale. Daniel ne trouva pas de compartiment qui fût absolument vide. Il prit place en face d'un gros monsieur, asthmatique et décolleté, dont l'occupation dans la vie était de transpirer, de passer son mouchoir sur sa tête, autour de ses oreilles et de son large cou, de contempler son mouchoir avec tristesse, puis, après un bruit de soupir ou de catarrhe, de laisser peser sur le paysage un regard accablé. Daniel, le train en marche, se repentit d'avoir quitté Berthe si vite, sans s'être mieux assuré qu'aucune indiscrétion ne se produirait dans son absence. M. Alfreda, malgré sa promesse, pouvait en parler à Mme Alfreda, qui raconterait l'histoire sur la plage. Daniel était énervé, comme dans une nuit d'insomnie où les dangers prennent un aspect si vilain et si imminent. Il était décidé à descendre à Rouen, à télégraphier à Éric qu'il ne viendrait à Paris que plus tard. Mais dès qu'il eut adopté cette résolution, il aperçut immédiatement les avantages de la résolution contraire. À Rouen, il se dit qu'Éric allait peut-être quitter Paris et qu'il importait de ne pas différer l'explication. Il était le seul défenseur de sa femme. Il ne pouvait pas être partout à la fois. Il fallait aller au plus pressé et agir au plus tôt sur Éric. Il avait du sommeil en retard. Il s'endormit après Rouen et ne se réveilla qu'au milieu des habitations de Bois-Colombes et d'Asnières, où les express courent docilement à travers des villas défraîchies et les jardinets démodés et poussiéreux des pensionnats de demoiselles. Daniel, mal réveillé, regarda d'un œil hagard la Seine immobile, puis les grands terrains de la Compagnie de l'Ouest, les interminables dépôts de machines qui semblent abandonnés, les files de wagons de luxe oubliés sur les voies pendant que leur locomotive est partie n'importe où sans espoir de retour. Dans le fiacre, bien attelé, qui, par son allure et le bruit vigoureux qu'il faisait sur le pavé, soutenait les fortes résolutions de Daniel, celui-ci se sentit, pour la première fois de sa vie, capable d'agir avec énergie. Il allait défendre Berthe. Cette impression d'avoir un but précis lui donnait une assurance inusitée. Pour la première fois de sa vie, il se sentait la volonté formelle d'affronter un homme, de lui parler haut. Il lui dirait « Vous m'avez pris ma femme, et je ne vous en ai pas voulu. Je vous ai pardonné parce que vous ne m'aviez pas fait de mal par méchanceté, mais par faiblesse. Et je vous ai pardonné aussi parce que j'ai toujours été sans force pour résister à ma femme, parce que je ne veux pas la voir inquiète et contrariée. Mais maintenant vous la quittez, vous la désespérez, vous lui faites du mal. Je ne dis pas cela pour vous défier. Je vous parle ainsi parce que telle est ma résolution, et je ferai n'importe quoi pour défendre Berthe. Je vous tuerai s'il le faut. Et l'on pourra me faire ce qu'on voudra, ça m'est égal maintenant. Je n'ai rien à perdre dans la vie. » Cependant, la voiture s'arrêtait devant l'hôtel Brown. Daniel demanda Eric Esmond. On était prévenu, on le conduisit au premier dans un petit appartement. Une femme de chambre de l'hôtel le fit entrer dans un salon de cretonne claire. Il n'y avait pour le moment dans ce salon qu'une jeune femme en robe tailleur. Elle écrivait, assise à un petit guéridon. Elle quitta sa chaise en silence, les yeux baissés, et gagna une porte. Sur le point de sortir, elle ne leva qu'un seul instant les paupières. Mais Daniel vit que dans son regard, il y avait un peu de crainte. Alors il se dit que tout n'irait pas si facilement qu'il avait pensé. Il ne s'agissait plus seulement de Berthe et des résolutions à arrêter entre deux hommes, qui tous deux avaient de la raison et de la bonté. Il y avait cette femme, dont la vie se trouvait aussi en jeu maintenant. Et Daniel sentit fléchir son courage. Chapitre 20. Il lui était bien difficile de lutter contre des intérêts qu'il comprenait. Certes, dans le cas présent, la douleur de sa femme lui était plus insupportable et plus odieuse que celle de cet inconnu. Il aurait probablement sacrifié, s'il avait pu, l'existence de cette femme au bonheur de Berthe. Mais si son dévouement pour sa femme était assez grand pour qu'il décidât en lui-même ce sacrifice, l'idée qu'il faudrait payer ainsi le succès de son entreprise diminuait son désir et sa volonté de réussir. Et, quand Eric parut à la porte par où était sortie la jeune femme, Daniel n'avait plus rien sur les lèvres de ce qu'il voulait lui dire. Eric lui tendit la main, Daniel y mit la sienne. Eric s'assit en face de lui sur un petit canapé. « Vous venez d'arriver ? » demanda-t-il. « Oui, » dit Daniel, « à 6h05. »« Je suis arrivé à 3h40 de Spa. »« Vous avez reçu ma dépêche hier de bonne heure ?» demanda Daniel. « Au moment où je faisais mes malles pour Paris. »« Et vous avez peut-être compris de quoi je voulais vous parler. »« J'ai vu que vous deviez être au courant, » dit Eric, la gorge un peu serrée. Il y eut un silence. Eric reprit sur un ton plus libre, avec plus d'abandon. « Et je vous avoue que j'en ai eu un grand soulagement. Depuis 3 semaines, j'écrivais, chez vous, des lettres de dissimulation. Je ne pouvais me résoudre à envoyer la vérité, de loin, lâchement, sans savoir et sans voir le retentissement qu'elle aurait. Est-ce qu'on sait maintenant quelque chose ?»« Elle ne sait rien encore, » dit Daniel. Eric eut une crispation douloureuse. « Et je ne sais pas ce qui arrivera, » continua Daniel, « quand elle apprendra. »« Elle en mourra, » dit-il d'une voix sourde. « Elle ne peut pas supporter de souffrir. » Eric poussa un soupir. Ses traits se contractèrent. Il était sincère, évidemment. Mais sa douleur était-elle profonde ? « Les hommes souffrent-ils bien fortement des douleurs dont ils sont la cause ? » Ils se turent un instant. Tous deux baissèrent la tête. Puis Daniel dit à Eric « Il faut que vous reveniez ». Il dit cela presque humblement, comme une prière. C'eût été plus digne à lui, sans doute, de parler sur un ton impérieux, mais le ton impérieux est toujours un peu factice. Daniel ne prenait aucune attitude. Il ne voulait pas en imposer à Eric. À ce moment-là, il sentait que la seule dignité consistait à être purement sincère. Eric n'avait pas répondu. Daniel répéta « Il faut que vous reveniez ». Eric haussa tristement les épaules, puis il dit avec accablement « Ce n'est pas possible. Comment voulez-vous ? » Et il montra du regard la chambre à côté où était partie la jeune femme. Ah, c'était bien là ce que craignait Daniel. C'était la difficulté insurmontable. Il voulut cependant ne pas céder encore, essayer de lutter. Il dit faiblement « Il ne fallait pas faire ce que vous avez fait. Vous n'étiez pas libre. » Eric hocha la tête. « Je sais bien qu'il ne fallait pas. Mais il y a 6 mois non plus, il ne fallait pas que je vous trahisse. » Il passa la main sur son front et dit en s'efforçant « Cette jeune femme est partie avec moi. Elle a laissé son mari et ses enfants. Je ne peux pas la quitter. » Il ne dit pas ce qui aurait été trop brutal à exprimer et ce que Daniel entendait fort bien. Berthe, elle, était restée à son foyer. Daniel l'avait gardée. Sa situation dans le monde n'était pas détruite. Son sort était matériellement moins intéressant. « Je sais bien qu'il ne fallait pas, » dit encore Eric d'une voix un peu lointaine et changée. « Si vous saviez les hésitations que j'ai eues, d'ailleurs, jadis, quand il s'était s'agi de vous et de votre femme, j'en avais eu de plus fortes encore. Mais on finit par devenir insouciant et mauvais sans s'en rendre compte. Il faut que je vous voie devant moi, malheureux. Il faut que je pense à votre femme pour concevoir seulement maintenant de quel tort je me suis rendu coupable. Il y a 6 mois, quand je suis venu chez vous et quand j'ai vu que je commençais à aimer votre femme, j'aurais dû m'en aller, et je me suis dit que j'allais m'en aller. J'ai essayé de ne pas venir pendant quelques jours. Mais une méchante action, c'est de l'action. La vertu, c'est de l'inaction. Il faut une longue contrainte pour rester inactif, et il suffit d'un mauvais moment pour agir. On est assiégé par la tentation, et l'on finit par céder. Alors, pour s'éviter des remords, on s'efforce d'oublier que l'on trahit quelqu'un. Et l'on oublie. » Daniel l'écoutait parler, mais il ne pensait qu'à une chose, c'est qu'Éric, sûrement, ne reviendrait plus auprès de Berthe. Il eut ce moment d'âpre satisfaction que l'on éprouve quand on se heurte à une impossibilité bien constatée. Il lui sembla qu'il ne fallait plus rien demander, que cette attitude de supplication et d'humilité ne se justifiait plus du moment qu'elle ne pouvait plus être efficace. Il se leva, gagna la porte. Il ne voulait pas serrer la main d'Éric. Il ne voulait pas non plus adopter une attitude d'hostilité qui n'aurait rien eu de sincère. Il lui dit « Adieu », presque à voix basse, sans le regarder, ouvrit la porte juste ce qu'il fallait pour passer, et sortit en la refermant derrière lui. Il quitta l'hôtel très vite, gagna la rue Tronchet où il s'assit sur un banc. Il y avait sur ce banc un vagabond tranquille, un homme qui portait un col très sale, sans bouton ni boutonnière, et que maintenait un plastron graisseux. Daniel pensa qu'il fallait retourner à Saint-André par l'express du soir. Il arriverait à minuit. Il parlerait à Berthe le lendemain matin. Il ne lui dirait rien le soir afin qu'elle eût encore une nuit tranquille. Mais quelle nuit passerait-il, lui ? Daniel regarda ce vagabond qui n'avait pas de quoi manger. Il voulut pouvoir l'envier tout à fait et lui mit dans la main une pièce de 5 francs. Et pour ne pas voir la figure de cet homme et son étonnement, il s'en alla sans se retourner. Comme il se dirigeait vers la gare, il pensa qu'il y aurait peut-être du monde à l'express qu'il était presque l'heure et qu'il ne trouverait de place que dans des compartiments encombrés. Il valait mieux prendre le train omnibus de 9 heures, où il serait seul en première et qui le trimballerait toute la nuit. Il n'arriverait à Saint-André qu'à 5 heures du matin. C'était comme une nuit de gagné. Il entra dans un restaurant et mangea n'importe quoi. D'ordinaire, il craignait de manger des choses indigestes, mais ça lui était égal d'avoir mal à l'estomac. Pourtant, après dîner, il regretta d'avoir pris de la salade et bu une bouteille de vin blanc. C'était bête de se rendre malade quand il avait besoin de toute sa vaillance. Toujours l'idée qu'il faudrait parler à Berthe était présente à son esprit. Il songea à retourner près d'Éric et à lui demander une lettre qu'il remettrait simplement. Mais il se dit qu'il n'avait pas le droit de faire dire par un autre la mauvaise nouvelle. C'était à lui à la porter, avec tous ses soins. Le douloureux fardeau dont il était chargé, il ne faudrait pas s'en débarrasser trop vite, mais le déposer avec précaution. À 9 heures, il prit son train. Comme il l'espérait, le wagon des premières était vide. C'était un wagon d'un modèle démodé. Il faisait l'effet, dans ce convoi de villageois, de la vieille berline du châtelain. Les vitres n'avaient pas été baissées depuis longtemps. La chaleur et la poussière étaient suffocantes. Daniel s'étendit sur des coussins qui sentaient la houille. Il n'avait même pas le répit d'une nuit confortable avant le sinistre lendemain. Il dormit vaguement. Le train s'arrêtait continuellement dans des gares qu'il ne parvenait pas à quitter. Puis il s'endormit plus profondément. Et quand il se réveilla, la nuit était finie. Demain était devenu aujourd'hui. Ce jour cruel était là, éclatant de lumière. Il descendit à Saint-André, traversa la gare déserte, dut subir dans l'omnibus le fracas des vitres, le gémissement des freins, les heurts de la lourde voiture. Arrivé chez lui, il ouvrit doucement la porte de la grille en maintenant le fil de la sonnette pour l'empêcher de sonner. Il traversa le jardin sur l'herbe mouillée pour ne pas faire crier le gravier, retira ses souliers dans l'escalier et vint se déshabiller en silence dans le cabinet de toilette. Mais il fut forcé de repousser doucement Berthe qui s'était étendue en travers du lit. « Te voilà ? » fit-elle. « Je voudrais bien savoir ce que tu as été faire à Paris. » Puis elle tourna le dos et reprit son sommeil. Sans fermer les yeux, couché sur le dos, en essayant au moins de délasser son corps, Daniel attendit les heures implacables. On remua dans la maison. Puis il entendit la voix du bébé qui criait. Il ne pensait presque jamais à son enfant. Il jouait avec lui quelquefois. Ça l'armait quand il avait mal à la gorge, mais aucun lien intime et vivace ne l'unissait à lui, comme à cette petite Berthe qui dormait à ses côtés et qui avait été pour lui la cause de tant de souffrances. Il entendit sonner 8 heures. À 8h30, ponctuellement, la femme de chambre apporta le déjeuner de Berthe, son café au lait et un croissant. Quand elle eut mangé, elle dit encore à Daniel « « Je voudrais bien savoir ce que tu as été faire à Paris. Pourrais-tu me le dire ?» Il s'était donné jusqu'à midi pour parler. Mais l'occasion le poussa. Il dit « J'ai vu Éric. » Elle s'était recouchée, la tête sur l'oreiller. Il était couché sur le côté. Il se faisait face. Elle approcha son visage en ouvrant de grands yeux. « Tu dis ?»« J'ai vu Éric. » Et il m'avait télégraphié qu'il était à Paris. Il voulait me parler. Elle l'écoutait, les yeux très grands, sans mot dire. « Oui, continua-t-il, il voulait me parler. Il n'est pas bien portant, sans rien de grave. Il a besoin de voyager, de s'isoler. Il va partir 2 mois en Suisse. Il n'a pas voulu te l'écrire, il ne voulait pas t'alarmer. Il craignait aussi que tu ne le dissuades de ce voyage, qui est absolument nécessaire. » Elle le regardait toujours avec un visage de petite fille. Elle avait ses cheveux nattés pour la nuit. Elle lui dit d'une voix craintive « Qu'est-ce que ça veut dire ? » Elle avait maintenant des yeux suppliants, comme si on allait la battre. Daniel n'osa pas aller plus loin. Il répéta « Je t'ai dit ce qu'il m'a dit. » D'abord, elle sembla le croire, ce qui fit de la peine à Daniel. Et puis, il aurait désiré d'autres questions, des questions inquiètes, pour n'avoir qu'à répondre. Pour répondre, oui, et pour n'avoir pas à prononcer lui-même les mauvaises paroles. « Comprends-tu cela ? » dit-elle. « Pourquoi ne m'a-t-il pas parlé de ses projets ? Ça me fait de la peine qu'il s'en aille. Mais si c'est pour sa santé, je n'aurais rien dit, et je l'aurais vu au moins avant son départ. C'est étonnant. Mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose ?»« Non, » dit-il en hésitant à dessein, afin de ne pas la rassurer et de pouvoir reprendre la voie des révélations. « Il y a autre chose ? » demanda-t-elle faiblement. Daniel ne répondit rien. « Il aime une autre femme ? » dit-elle. « Oh ! » reprit-elle sans pleurer, d'une voix infiniment triste. « Il aime une autre femme. » Elle souffrit tant à cette minute qu'elle ne songea même pas à demander qui c'était. Chapitre 21. Ici se termine, non la vie, mais l'histoire de Daniel Henry et de Berthe Voreau. La douleur de Berthe diminuera peu à peu, sans que la décroissance en soit hâtée par un de ces événements heureux ou tragiques que, faute de temps, les dramaturges font intervenir au dernier acte. Dans la pratique, la vie, plus lente, se charge de classer les affaires de cœur. Tout s'arrange, le plus souvent, en ne s'arrangeant pas. Le souvenir d'Éric Esmond s'effacera de l'âme de Berthe, beaucoup plus vite que de celle de Daniel. Berthe, en effet, conserve mal ses souvenirs, comme beaucoup de jeunes femmes, que la destinée roublarde a privées de mémoire, afin d'être en état de les satisfaire plus facilement et de leur servir à la place du nouveau dont elles sont assoiffées, d'anciennes impressions qu'elles ne reconnaissent pas. Berthe, que Daniel traita d'infidèle et qui le fit tant souffrir, n'avait aucune cruauté. Elle manquait simplement de mémoire et d'imagination. Son manque d'imagination lui permit de rendre un mari très malheureux, sans s'en rendre compte. C'était un peu la faute de Daniel, qui, dans ses alternatives de souffrance et de détachement, taisait sa souffrance par fierté et proclamait bruyamment son détachement, par orgueil. Or, Berthe, très occupée d'elle-même, ne pouvait voir que ce qu'on lui montrait. Grâce à son manque de mémoire, elle eut vite fait d'oublier les émotions, qui, dans leur jeune âge, les avaient attachées l'un à l'autre. Il lui était difficile de rester fidèle à des souvenirs qu'elle avait perdus. Elle ne pouvait être fidèle qu'au présent, qui seul marquait dans son âme. C'était une femme dont il eût fallu être constamment amoureux avec adresse et persévérance. Cette tâche ne laissait pas d'être un peu dure pour un jeune homme inhabile et paresseux.